Info matin, Nicolas Legrand.
Le haut commissaire entendu par les députés, 2 heures d'audition par le groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie. Une bonne façon de sensibiliser les parlementaires selon le député Nicolas Metzdorf. Dans ce journal, on fera également un point sur les importants feux de brousse qui sévissent dans le Nord. Le feu a été fixé à Calagomani hier soir. En revanche, 9 nouveaux départs ont été signalés sur la commune de Koumac. L'actualité politique nationale, des tensions entre Michel Barnier et le camp présidentiel. Le Premier ministre a annulé au dernier moment un rendez-vous avec Gabriel Attal, puis avec les Républicains. Analyse dans ce journal. À l'étranger, après des beepers, ce sont des talkie-walkies qui ont explosé simultanément au Liban. Bilan, 9 morts et des centaines de blessés dans cette deuxième attaque qui vise donc le Hezbollah. Le sport et le PSG qui débutent sa campagne européenne. Il accueille Gérone en Ligue des Champions. 6 matchs sont au programme ce matin, dont Manchester City, Inter Milan. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil prend l'avantage, mais progressivement les nuages formés sur le relief s'étalent sur la façade ouest. Pas ou peu de précipitations. Quant aux températures maximales, elles sont en hausse, 23 à 27 degrés en général. Et puis sur l'ouest, ça grimpe un peu, 28 à 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, le haut-commissaire Louis Lefranc a donc été auditionné par les députés à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il a été entendu hier soir à Paris par le groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie. Ce groupe comprend les présidents ou leurs représentants des 11 groupes présents à l'Assemblée nationale et bien sûr les 2 députés calédoniens, Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou. Si le député indépendantiste estime de son côté que le haut-commissaire s'est montré partial dans son exposé en qualifiant les émeutiers de militants indépendantistes, le député Nicolas Metzdorf, lui, estime que cette audition était surtout pédagogique. Il est important pour lui de sensibiliser les parlementaires de métropole à la situation économique et sécuritaire de la Nouvelle-Calédonie.
C'est toujours mieux quand il y a du monde qui s'occupe de nous, parce que je regrette moi un petit peu, et j'ai eu l'occasion de le dire, le silence politique ces 4 derniers mois de la métropole. Il y a quand même eu 700 forces de l'ordre blessées en Nouvelle-Calédonie. Il y a une crise économique et sociale sans précédent. On n'a pas entendu beaucoup de condamnations de la part des voix parisiennes. Je le regrette parce que je pense que si ça s'était déroulé sur le sol métropolitain, on en aurait un petit peu plus parlé. Voilà, donc je me fais l'écho, moi, des Calédoniens qui se sentent un petit peu oubliés, abandonnés en ce moment. Et donc mon rôle, c'est effectivement de sensibiliser tout le monde ici à cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui fait partie des moments où il y a eu une sensibilisation.
Sensibiliser, Nicolas Metzdorf s'y attelle. Il multiplie les rendez-vous politiques à Paris. Et après ses premiers échanges avec le Premier ministre Michel Barnier, il pense que le dossier calédonien pourrait quitter la place Beauvau et le ministère de l'Intérieur pour revenir à Matignon.
J'ai pu échanger avec Michel Barnier par SMS et j'ai un rendez-vous avec son cabinet cette semaine. J'ai l'impression que Matignon veut prendre le dossier en main et je crois savoir qu'il y aurait un ministre délégué aux Outre-mer à Matignon. C'est en tout cas les bruits de couloir que l'on a aujourd'hui, donc à voir si ça se confirme. Un ministre délégué aux Outre-mer, non, pas de plein exercice parce qu'il serait rattaché à Matignon, un peu comme on avait auparavant avec le ministère de l'Intérieur et le ministère délégué aux Outre-mer rattaché à l'Intérieur. Cette fois-ci, ça serait rattaché directement à Matignon. Ça démontrerait que le Premier ministre veuille s'occuper du dossier ultramarin et en particulier du dossier calédonien. Bien sûr, tout ça reste à confirmer, hein, puisque vous savez que tout bouge en ce moment. Mais en tout cas, c'est les dernières infos qu'on a.
Nicolas Metzdorf a aussi commenté le soutien de 50 milliards de francs que l'État apporte à la Nouvelle-Calédonie sous la forme de subventions et de prêts.
Je ne veux pas paraître ingrat, il faut toujours remercier l'État de son soutien, mais plusieurs choses. La première, c'est que c'est la compétence de l'État, la sécurité et l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Et s'il y a eu autant de dégâts, c'est parce que l'État n'a pas assumé correctement cette compétence. Le deuxième point, c'est que les destructions sont évaluées à 4 voire 5 milliards d'euros, pas à 400 millions d'euros. Ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième point qui est important, c'est que c'est quoi une aide de l'État ? Parce que si c'est des prêts, des avances remboursables, ce n'est pas une aide de l'État. En fait, sur les 400 millions d'euros, il y en a 200 qui sont de la subvention directe. Donc ça, c'est un soutien au titre de la solidarité nationale. Très bien. Et il y a aussi 200 millions d'euros qui sont des avances remboursables ou des prêts. Et donc finalement, ça, c'est la Calédonie qui paye à la fin. Mais si c'est pour nous endetter plus sur, comme je l'ai dit, un manquement de la compétence de l'État, on va avoir des discussions sérieuses entre nous et l'exécutif national.
Le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. L'État qui va justement continuer d'accompagner la Nouvelle-Calédonie pour sauver son économie. Le secrétaire général du Haut-Commissariat dressait hier le bilan des aides financières mises en place par l'État depuis le 13 mai. Elles se montent donc à 50 milliards de francs. Dès la première semaine des émeutes, face à des destructions massives qui ont notamment valu à la Nouvelle-Calédonie de perdre 30% de sa capacité de production, l'État est intervenu très tôt, avec d'abord un certain nombre d'urgences, a rappelé Stanislas Alfonsi, et malgré un contexte budgétaire très contraint en métropole.
Nous étions dans une situation d'urgence extrêmement prégnante. Il a fallu trouver des moyens rapidement pour venir soutenir le territoire et pour éviter son effondrement. C'est ce que l'État a fait. Nous avons soutenu le monde économique, nous avons soutenu les salariés, nous avons soutenu les collectivités territoriales, nous avons soutenu les services publics. Nous continuons de le faire. L'État continue de le faire et l'État continuera.
Tout cela dans un contexte budgétaire national qui est évidemment très compliqué. Il a fallu trouver cet argent quelque part.
Ça n'a pas été simple, effectivement, de trouver des moyens massifs dans une période de l'année très particulière, puisqu'on était au milieu de l'année budgétaire, à un moment où les budgets, normalement, sont tous programmés et mobilisés par ailleurs. Il a fallu trouver des centaines de millions d'euros. Eh bien, l'État a trouvé des centaines de millions d'euros pour la Nouvelle-Calédonie au moment où on demande à tous les autres ministères, on demande à toutes les autres parties de l'action publique, en hexagone en particulier, de faire des efforts considérables. Le budget de la nation est sous forte contrainte. Nous pensons que cela ne doit pas empêcher l'État de venir en aide à la Nouvelle-Calédonie.
Et concrètement, l'aide de l'État a permis de maintenir le chômage partiel, le système électrique et d'alimenter le RUAM. Avec la dernière tranche d'aide de l'État de 13 milliards validée mardi par le Congrès, l'aide totale se monte donc à 50 milliards de francs depuis le 13 mai. Une aide sans condition, selon Stanislas Alfonsi, qui préfère parler d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie dans un processus de réforme nécessaire. Et cette aide va se poursuivre sans attendre la conclusion d'un éventuel accord politique sur l'avenir institutionnel, a souligné le secrétaire général du Haut-Commissariat. Concernant la reconstruction, justement, la présidente du Congrès insiste sur l'absolue nécessité d'un déplacement en urgence à Paris pour défendre le plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État. C'est ce qu'elle a écrit à la chef du groupe Les Loyalistes qui l'informait mardi de la décision de son groupe de ne pas participer au déplacement prévu à Paris, Elisabeth Noir.
Nous parlions dans nos précédentes éditions de cette lettre de François Suvet à Velma Falaeo, dans lequel elle expliquait que les loyalistes renonçaient à participer au déplacement du comité interinstitutionnel demandant l'adoption d'un plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État. La présidente du Congrès déplore que François Suvet motive cette décision de dernière minute par l'absence de participation du PALICA à ce déplacement. Alors écrit-elle que la position du PALICA est tout sauf une surprise, puisque ce groupe politique est le seul à s'être abstenu lors du vote de la résolution, comme lors de l'installation du comité interinstitutionnel. Quant au fait que les loyalistes considèrent que cette délégation ne se rend pas en métropole au moment opportun, la présidente du Congrès souligne que la constitution du prochain gouvernement doit intervenir à la fin de cette semaine au plus tard. Velma Falaeo relève aussi que le gouvernement doit déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2025 au plus tard le 15 octobre prochain et qu'il lui semble indispensable de mener en amont le travail de sensibilisation pour obtenir les inscriptions des crédits nécessaires au budget de l'État pour le financement du plan de reconstruction. Elle indique enfin que le comité interinstitutionnel a l'intention de rencontrer l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat sans aucune exclusive. Velma Falaeo qui insiste donc sur l'absolue nécessité d'un déplacement en urgence à Paris et elle regrette que cette opportunité de matérialiser cette unité de reconstruction tant attendue par les Calédoniens à travers le Congrès ne soit finalement pour les loyalistes qu'un acte manqué. Fin de citation.
Merci Elisabeth Noir et on reviendra notamment sur la reconstruction ce midi dans les jeudis de l'économie. Jeudi de l'économie qui sera consacré au plan S2R et à la vision qu'en ont les acteurs économiques. Nous parlerons de ce plan de sauvegarde, rénovation et reconstruction préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en compagnie de la présidente du MEDEF, Mim Sidélé, du président de la FINC, Xavier Benoît et de Stéphanie Otto, vice-président de la CCI. Et ce matin, c'est la commissaire divisionnaire Anne-Gabrielle Guébélil, directrice adjointe de la police nationale, qui sera notre invitée à 7h30. Elle sera interrogée sur l'ordre public à Nouméa, 4 mois après le 13 mai, et sur la façon dont la police se prépare dans la perspective de la date du 24 septembre. En bref, hier, les pompiers et les policiers sont intervenus sur un nouvel incendie au CFA à Nouville, en face du Sénat coutumier. Vers 22h, la situation était sous contrôle. Je rappelle que les bâtiments avaient déjà été victimes des violences insurrectionnelles dès le mois de mai Et puis à Montravel, un important dégagement de fumée a été provoqué par des feux de détritus vers 20h. On revient maintenant sur les feux de Koumac et de Kalagomen où les pompiers du SIVM Nord et depuis mardi soir, ceux de la sécurité civile sont engagés, Isabelle Pelletier.
Oui, mardi soir, le plan sec feu de forêt de niveau 2 avait été déclenché. Les moyens de la sécurité civile ont en conséquence été déployés avec l'hélicoptère bombardier d'eau, notamment sur ce feu de Kalagomen. Au lieu dit Troulala, des centaines d'hectares ont déjà été brûlés, mais le sinistre a été fixé hier soir avec l'appui de la société civile. Comme nous l'explique l'adjudant Kevin Leclerc, adjoint au chef de corps du SIVM Nord.
On a eu un appui qui a été très, très important pour nous, qui est venu de la société civile, qui étaient les mineurs et les entreprises de roulage du secteur, qui nous ont fourni des chargeuses hydrauliques et qui ont des chargeuses qui ont permis de tracer des chemins entre la RTN1 et la mer et d'aller chercher le feu vraiment dans les zones qui étaient inaccessibles par manque de pistes et que les camions ne pouvaient pas accéder. On est fixé à Troulala, là où justement les engins hydrauliques ont fait ce fameux pare-feu et ont permis à la sécurité civile de fixer le feu hier soir. Donc quand j'ai eu le commandant des opérations de secours de la sécurité civile hier pour le bilan de fin de journée, ils reviennent quand même aujourd'hui, l'hélicoptère sera réengagé encore aujourd'hui, de façon à être sûr que le chantier est propre et ne présente plus de danger.
Les pompiers du SIVM Nord qui ont été engagés toute la nuit sur de nombreux départs de feu à Koumac, dont l'un les a mobilisés toute la nuit.
On est reparti sur une petite reprise du côté de Troulala qui inquiétait les habitants. Donc on a été travailler un petit peu avec eux pour une zone qui était non brûlée et qui s'est enflammée hier soir avec les vents qui ne sont pas tombés. Ensuite, on a été pris sur la commune de Koumac avec plusieurs mises à feu qui partaient de la rivière jusqu'au village. Et sur toutes ces mises à feu-là, une qui nous a tenus là, jusqu'à ce matin, là, il y a environ un quart d'heure. Si jamais le feu n'avait pas été arrêté, on aurait eu dans la matinée un gîte avec une vingtaine d'habitations qui auraient pu être menacées.
L'adjudant Kevin Leclerc, adjoint au chef de corps du SIVM Nord. Plus d'une trentaine de départs de feu ont eu lieu dans le lit de la rivière à Koumac ces derniers jours, dont la plupart est d'origine humaine et volontaire. Aujourd'hui, la météo annonce de forts vents qui vont encore venir compliquer la tâche des soldats du feu.
Et deux volontaires du RSMA sont d'ailleurs engagés sur ce feu de Koumac. Deux sapeurs-pompiers volontaires stagiaires du régiment du service militaire adapté qui ont vécu finalement leur première épreuve du feu en brousse, Sarah Mégerie.
Pour leurs 5 semaines de stage obligatoire, Chania et sa collègue ont eu l'occasion de mettre en pratique toutes les techniques qui leur sont enseignées pendant la formation. Une première aventure d'envergure puisque ce feu s'est propagé sur plus de 1000 hectares et menace aujourd'hui une cinquantaine d'habitations. Les volontaires travaillent sur place depuis 2 semaines. Chania raconte la réalité du terrain.
Alors, tout premier, je suis arrivée et j'hésitais un peu. J'étais là, mais je disais que j'allais vraiment éteindre un vrai feu en fait. Mais voilà, il fallait que j'y aille. On arrive, on est dans la fumée, dans la cendre. On a que de la cendre sur nos masques. C'est chaud. Et voilà, on fait avec. On est là pour ça, surtout qu'il y a des habitations aussi, il faut qu'on protège. Il y a des lances pour protéger le autour. On éteint d'abord les lisières pour pas que le feu se propage. Quand le camion est vide, il faut trouver un poteau pas loin pour remplir encore le camion, revenir et éteindre les feux. Ça peut durer toute la journée, ça dépend en fait de la propagation du feu. C'est fatigant, tellement que tu es sur le feu, on mange pas. Ça demande beaucoup, mais c'est pour le bien du pays aussi, pour nous.
Sur place à Koumac, les sapeurs-pompiers volontaires du RSMA sont sous commandement de la sécurité civile. Toute l'équipe intervient au profit des casernes de pompiers. L'expérience de 2 stagiaires sur le terrain permet de faciliter leur insertion dans les casernes après leur formation. L'adjudant Pierre, formateur au RSMA.
Les 2 stagiaires que j'ai que des bons retours de la caserne des pompiers de Koumac. Puisqu'ils ont fait des interventions sur de nombreux feux. Le fait qu'elles soient disponibles en bonne condition physique, parce qu'au RSMA, on fait beaucoup de sport, ce qui permet de les garder en bonne forme et d'améliorer leurs compétences physiques, permet à mes stagiaires de rester longtemps sur les interventions et être et durer en bonne santé sur toutes les interventions. Les jeunes qui viennent au RSMA veulent apprendre un métier et ils sont tous dévoués à vouloir être sapeurs-pompiers volontaires et équipiers de sécurité civile. En Nouvelle-Calédonie, il y a de nombreux feux, accidents de la route et bien d'autres choses. Et les casernes des pompiers ont besoin de personnel formé pour pouvoir intervenir efficacement sur les interventions.
Les moyens et effectifs du RSMA déployés pour l'opération à Koumac sont un camion-citerne, 2 formateurs et 2 volontaires techniciens qui aident également à la formation des stagiaires.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord justement la réponse à notre question d'hier. 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la multiplication des départs de feu intentionnels dans le Nord traduit une stratégie de déstabilisation. Ils ne sont que 4% à penser que ce n'est pas le cas. Voici maintenant notre question du jour. Trouvez-vous normal ou inquiétant que le Premier ministre Michel Barnier mette autant de temps à constituer son gouvernement ? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1. Si vous trouvez que c'est inquiétant, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation. Et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h46. Justement, le gouvernement de Michel Barnier, eh bien, on va en parler juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale est 14 jours après sa nomination. Michel Barnier n'a toujours pas annoncé son gouvernement. Les tractations sont particulièrement difficiles, hein. C'est un doux euphémisme pour le Premier ministre. Il devait recevoir hier soir pour nous Gabriel Attal et cette nuit, il devait s'entretenir avec les cadres des LR. Mais ces deux rendez-vous ont été tout simplement annulés, Arthur Delaborde.
Les discussions entre Michel Barnier et les deux composantes principales de la majorité relative sont-elles plus compliquées que ce qu'imaginait le Premier ministre ? Les LR devaient effectivement être consultés aujourd'hui pour la quatrième fois, mais la réunion a été annulée sans raison avancée par Matignon. Ce matin déjà, Michel Barnier avait refusé de recevoir Gabriel Attal, son entourage, dénonçant la volonté de son prédécesseur d'imposer la présence de certains de ses proches lors de ce rendez-vous. Cette excuse ne tient pas, confie un fidèle de l'ancien locataire de Matignon, qui parle d'un coup de colère de Michel Barnier pour imposer son autorité. Il faut dire que les relations avec les macronistes n'ont jamais été aussi tendues. Gabriel Attal laisse entendre que son camp ne participera pas au gouvernement sans clarification du projet politique. Du côté du Premier ministre, c'est le plus grand flou, constate un conseiller de l'exécutif, qui va jusqu'à se demander s'il ne jettera pas l'éponge avant d'avoir constitué son gouvernement. En tout cas, Michel Barnier continue d'échanger avec Emmanuel Macron. Pas de confirmation officielle à ce stade, mais certaines sources assurent qu'un tête-à-tête est prévu ce soir à l'Élysée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Toujours dans l'actualité en métropole, c'est l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres l'année dernière en métropole. Les 27 juin 2023, le jeune Naël a été tué au cours d'un contrôle de police qu'il avait refusé à Nanterre. Au volant d'une Mercedes AMG de location immatriculée en Pologne, il avait été touché par le tir d'un policier. Il est mort sur place, on s'en souvient. S'en suivaient plusieurs jours d'émeutes dans les quartiers partout en France. L'affaire est vite devenue un symbole brandi par la gauche pour crier aux violences policières systémiques. L'enquête a été clôturée et les avocats des deux parties attendent désormais le réquisitoire définitif. Mais les conclusions des investigations démontrent que la version initiale présentée par la famille de Naël et les parties civiles s'est révélée tout simplement inexacte. William Molinier, qui a signé un dossier spécial dans le nouvel hebdomadaire Le JD News, a eu accès au dossier d'instruction.
Trois choses à retenir. D'abord, les policiers n'ont pas frappé Naël Merzouk. L'autopsie est formelle. Il n'y a aucune trace de coup compatible avec le récit des parties civiles. Les deux seules ecchymoses sont situées sur le bras droit de l'adolescent et elles ont été causées, selon la médecin légiste, au moins 18 heures avant son décès. Ensuite, contrairement aux déclarations des passagers de la voiture, Naël Merzouk a bien redémarré volontairement la voiture. C'est l'expertise automobile qui le dit. Quatre actions successives ont été nécessaires, appuyer sur le bouton start and stop, sur la pédale de frein, puis passer le levier de vitesse sur le mode drive et enfin accélérer. Enfin, selon l'expertise balistique, le tir du policier a été dévié par le redémarrage de la voiture. Il visait à l'origine beaucoup plus bas que le haut du corps de l'adolescent.
Mais alors, judiciairement, qu'est-ce qui va changer pour le policier auteur du tir qui est, on le rappelle, mis en examen pour meurtre ?
Eh bien, la première chose, c'est que l'intention de tuer ne transparaît pas du tout dans l'enquête. La qualification de meurtre, donc d'homicide volontaire, va sans doute être revue. Deuxième chose, et c'est la thèse que défend l'avocat du policier qui a tiré, elle est plutôt convaincante. Lui, il dit que son client avait le droit d'ouvrir le feu pour stopper cette voiture pour deux raisons. La voiture avait manqué de renverser des piétons et elle se dirigeait vers une place bondée de monde. La question que vont se poser les juges, c'est ce policier avait-il le droit de faire usage de son arme ? Et à cette question-là, la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer lui donne plutôt raison.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. En bref, le procès de Gisèle Pelicot s'est poursuivi avec le visionnage d'images demandées par des avocats de la défense. Près d'une trentaine de photos de la victime des viols de Marzan, dont certaines très suggestives, ont défilé. Gisèle Pelicot a affirmé que ce n'était pas elle sur certains clichés et qu'on cherchait tout simplement à la piéger pour insinuer qu'elle avait, je cite, « appâté ses hommes ». Rappelons que la septuagénaire avait été droguée et violée à son insu par 51 hommes, dont son mari Dominique Pelicot. « Aujourd'hui, j'ai l'impression que la coupable, c'est moi » et que j'ai 50 victimes en face d'eux, a déclaré Gisèle Pelicot, qui a aussi traité les accusés de dégénérés.
À Radio Rythme Bleu, il est 6h51.
Et on va revenir à l'actualité à l'étranger maintenant avec une nouvelle vague d'explosion d'appareils de communication au Liban, mercredi. Des talkie-walkie, différents appareils appartenant à des membres du Hezbollah, ont explosé à 3 endroits du pays. 9 personnes sont mortes et des centaines sont blessées selon les autorités. Écoutez cet expert en cybersécurité, il revient sur ces faits.
On avait pu voir du piégeage de matériel avec des explosifs à l'échelle individuelle, un téléphone, une voiture, certains équipements, mais jamais plus de 3000 équipements numériques simultanément. Ça nécessite une organisation très méticuleuse et une logistique sans faille pour réussir cette attaque.
Et je rappelle donc que la veille, il y avait déjà eu une attaque au beeper, donc au Liban, mais aussi en Syrie, qui avait fait 12 morts et 2800 blessés. Selon le Hezbollah, les talkie-walkie piégés sont arrivés par la même cargaison que les beepers qui avaient explosé la veille. Une révélation qui appuie l'hypothèse d'une opération préparée de longue date. Il est 6h, passé de 53 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive, et les jours se suivent et se ressemblent puisqu'il y a du football également ce matin avec la Ligue des Champions.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Nouméa Quincaillerie fête ses 20 ans. Chez Nouméa Quincaillerie, profitez de remises exceptionnelles tout le mois de septembre. Nouméa Quincaillerie, ouvert en continu de 6h30 à 16h30. Nouméa Quincaillerie, 51 rue Auer à Ducos. Plus d'infos sur Facebook.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Pour ton orientation ou ta reconversion, découvre toutes les opportunités qu'offre la formation en alternance de la CCINC. L'alternance, c'est une formation, une expérience, un métier. 12 formations dans 5 secteurs différents, du niveau bac à bac plus 3. Des formations adaptées aux entreprises pour former les collaborateurs de demain. Inscris-toi dès maintenant sur www.pointa.nc jusqu'au 4 octobre. Plus d'infos sur www.cfa.cci.nc. La CCI Formation Alternance, accélératrice de compétences et d'insertion professionnelle.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la suite de la Ligue des Champions ce matin, première journée de la phase de Ligue avec le Paris Saint-Germain qui accueille Gérone depuis 6 heures. C'est donc la pelouse, c'est donc la mi-temps sur la pelouse du PSG. Il y a donc 0-0 pour le moment, 0-0 également entre Club Bruges et le Borussia Dortmund. 0-0 aussi dans ce choc entre Manchester City et l'Inter Milan. Seul but inscrit pour le moment, et eh bien il est au compte du Celtic Glasgow qui mène 1-0 à domicile face au Slovan Bratislava. Et puis il y avait deux matchs un peu plus tôt dans la matinée, 0-0 entre Bologne et Shakhtar Donetsk, finalement pas beaucoup de buts aujourd'hui. Le Sparta Prague en revanche, eh bien, a inscrit pas mal de buts puisqu'il y a eu 3-0 face au RB Salzbourg, donc victoire du Sparta Prague. En Ligue des Champions féminines maintenant, il y avait deux rencontres avec des clubs français. Le Paris FC s'est lourdement incliné à domicile face à Manchester City 5-0. Défaite également du Paris Saint-Germain en déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin. 3-1 en faveur donc des Italiennes. Le football dans la région avec la sélection féminine des moins de 16 ans qui s'est inclinée en demi-finale du tournoi océanien. Une défaite hier matin face aux îles Samoa, 2-0. Les Calédoniennes qui manquent la finale de la compétition et surtout la place qualificative pour le mondial de leur catégorie d'âge, puisque seules les deux premières équipes de la compétition régionale participeront donc au Maroc l'année prochaine à cette Coupe du Monde. Kenji Vandegou, leur entraîneur, souligne tout de même le beau travail accompli jusqu'à cette demi-finale océanienne.
Je voudrais dire merci à toute la famille, au travail qui a été fait, voilà, à toutes les familles des filles, et à tous les clubs, les éducateurs, le département technique. Voilà, merci à tout le monde pour le travail. Et voilà, il nous reste une marche encore à progresser, à prendre, mais on est une jeune équipe et on va travailler pour ça.
Et la compétition se déroule donc à Suva aux îles Fidji. Les Calédoniennes joueront encore le match pour la troisième place samedi face aux Tonga, alors que les Néo-Zélandaises, tombeuses des Tongiennes 8-0, défendront leur titre. En stand-up paddle maintenant, il y avait des Calédoniens au championnat du monde à Copenhague, au Danemark. Clément Colmas a pris la quatrième place de la finale de la Technical Race, tandis que Noé Garriou s'est classé 15e. Et Vaï Garriou, lui, est monté sur le podium, 3e de la Technical Race Junior. Écoutez Benoît Rivière de la Ligue de Surf, il est leur entraîneur en Calédonie.
Une médaille de bronze pour Vaïk, bon, déception certainement pour lui, mais bon, ça reste une médaille de bronze au championnat du monde, dans une course où il y a du haut niveau, même chez les juniors, ça monte. Et par contre, pour Clément et Noïc, chez les grands, c'est quand même une belle quatrième place pour Clément, avec une course bien menée, et puis Wiki Noïc, un mauvais départ, et derrière une course compliquée sur tout le long. On est toujours très fiers de nos rameurs, les trois garçons de l'équipe de France sont quand même des rameurs calédoniens, donc oui, on est très fiers de ce qu'ils font, et puis c'est pas fini, il reste encore des courses, et ils vont carnu, il
n'y a pas de souci. Benoît Rivière, l'entraîneur du centre territorial d'entraînement du stand-up paddle pour la Ligue calédonienne de surf.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, une vigilance jaune aujourd'hui pour une houle, une forte houle sur l'île des Pins, pour une longue houle, donc de orientée sud-sud-ouest, proche des 3 mètres, s'atténuant lentement en cours de journée. Ce matin, sur l'ouest, le soleil s'imposera largement après la dissipation des bancs de nuages en début de matinée. Sur les autres régions, les nuages seront plus tenaces. Ils s'accompagneront au lever du jour de quelques ondées aux extrémités de la Grande Terre. Sur l'ouest, le vent sera tout d'abord faible, puis s'établira entre voire 10 nœuds de sud-est à sud-est. Sur les autres régions, il sera orienté à l'est, généralement autour des 10 nœuds, sur la pointe nord, il se maintient entre 15 et 20 nœuds. Cet après-midi, le soleil prendra l'avantage sur le territoire, mais progressivement, les nuages formés sur le relief s'étaleront sur la façade ouest, peu ou pas de précipitations. Sur l'ouest, le vent, lui, se renforcera au sud-est entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest. Ailleurs, il sera de secteur est autour des 10 nœuds, voire moins sur la côte est, plus de 15 nœuds sur la pointe nord. Les températures maximales sont en hausse, 23 à 27 degrés en général et 28 à 29 degrés sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry. Du côté des risques de feux de forêt, l'ensemble du territoire est en risque élevé à très élevé, hormis Nouméa, Yaté, Le Mont d'Or et l'île des Pins qui sont en risque faible à modéré pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.